Arnould Galopin, le bacille. Il allait chancelant comme un enfant lugubre, comme un fou. Devant lui, la foule au loin s'ouvrait. Léon Dierx. Il venait brusquement d'apparaître au coin de la rue et s'avançait d'un air las, le menton sur la poitrine, le visage enfoui dans un grand cache-nez de laine noire. Une femme qui faillit le heurter poussa un cri perçant et s'enfuit affolée. Presque au même instant, de tous côtés s'élevèrent des exclamations confuses. « Lui, oh, encore lui ! Oh, l'horreur ! Le monstre !» Il y eut une longue rumeur, un mouvement de recul, et instinctivement tous les visages se détournèrent. Pendant quelques instants, il demeura immobile, fixant sur ce qui l'entourait deux yeux jaunes, humides et luisants. Puis il poussa un long soupir et se remit en marche lentement, sous les huées. Au moment où il passait près d'un hangar en démolition, quelqu'un lui lança un plâtras qui s'émietta sur ses talons en un nuage de poussière blanche, et un gamin s'enhardit jusqu'à lui tirer son pardessus. L'homme se retourna et regarda l'enfant qui, terrifié, resta cloué sur place, bouche bée, les doigts ouverts. La foule s'était amassée, surexcitée, tumultueuse. Et si nous n'étions pas arrivés, il aurait certainement frappé, dit une femme avec un geste de menace. Bien sûr, reprit une autre. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, il a couru après mon petit, même qu'en rentrant chez nous, le pauvre gosse a été pris de convulsions. Il avait eu, comme qui dirait, les sangs tournés. Mais pourquoi l'enferme-t-on pas? On a bien enfermé le mendiant de l'avenue d'Orléans. Vous savez, celui qui avait la figure brûlée et deux trous rouges à la place des yeux. C'est vrai, tout de même. Oh, pourtant, il n'était pas aussi laid que celui-ci. Et puis, il ne bougeait jamais de place. Il se tenait toujours devant la porte des enfants assistés. Ceux qui ne voulaient pas le voir n'avaient qu'à passer de l'autre côté du trottoir, tandis que cet individu-là, on le rencontre partout. Il habite sans doute le quartier ? Interrogea quelqu'un. Oui, tout près d'ici, à côté du marchand de fourrage, dans la petite maison qui fait le coin du passage Tenaille. Il faudra bien qu'on nous en débarrasse, grogna un vieux monsieur affligé d'un tic en ponctuant sa phrase d'un coup de canne et d'un clignement d'œil. Mais le commissaire a dit qu'il n'y pouvait rien. Oh, par exemple, oh, nous verrons bien. Oh oui, nous verrons. À la fin, c'est scandaleux, vraiment. Cela ne peut pas durer. L'homme était déjà loin. Sa longue silhouette voûtée s'était fondue peu à peu dans la luminosité pâle du crépuscule, et longtemps après qu'il eut disparu, la foule demeura encore groupée sur le trottoir, maudissant cet inconnu dont la brève apparition l'avait si étrangement remué. Depuis environ un mois qu'il s'était fixé à Montrouge, celui que l'on appelait l'horreur sortait régulièrement à la tombée de la nuit comme les chauves-souris. Il prenait les rues désertes, rasait timidement les maisons, cherchant le plus possible à se dissimuler dans l'ombre. La première fois qu'on l'avait aperçu, il avait provoqué un sentiment de curiosité inquiète, une sorte d'indéfinissable malaise comme on en éprouve à la vue de quelque chose d'étrange, d'anormal, qui épouvante et déconcerte. Puis, à la longue, la crainte avait fait place à l'aversion, et l'aversion au dégoût. On avait peur de cet homme et on le détestait, tout à la fois parce qu'il troublait la quiétude des gens paisibles et s'obstinait à vivre de la vie de tout le monde, quand il semblait condamné par la nature à mener l'existence des anciens lépreux. Pour un peu, on eût exigé qu'il se couvrît la tête d'un voile et s'annonça d'un grincement de crécelle. Il était devenu une sorte d'ennemi public. Une rage sourde grondait à son approche, et sans les Serge en ville, peut-être l'eût-on lynché, tant était forte la haine de tous contre cet homme auquel on ne pouvait cependant reprocher que sa laideur. Il y a de ces misères physiologiques qui surexcitent les nerfs et qui, après avoir donné le frisson, finissent par horripiler. Elles deviennent une obsession. Et à leur vue, au lieu d'une exclamation de pitié, c'est un cri de fureur qui s'échappe, car le moderne altruisme s'accommode mal de certaines complications et n'entend pas être soumis à trop rude épreuve. Il est entendu que chacun aime son prochain, et quelquefois disposé à le secourir et à le consoler, à condition toutefois que ce prochain ne force pas les cœurs à des dévouements trop héroïques. La nuit était tout à fait venue quand l'horreur réintégra son antre, une petite construction de 2 étages, à la façade lézardée, au volet disjoint, située presque en bordure de l'avenue du Maine. Cette masure, qui à gauche était protégée contre l'écroulement par des poutres vermoulues, s'adossait sur la droite à un hangar, sous lequel on apercevait des bottes de paille et de foin symétriquement étagées. Une cour intérieure faisait communiquer le hangar avec cette pauvre maison, mais depuis que celle-ci était habitée, on avait édifié à la hâte une sorte de cloison formée de branches disparates et à demi pourries que reliait entre elles par le haut une traverse de sapin toute neuve. 2 fenêtres donnant sur la cour avaient été condamnées au moyen de tasseaux et l'on voyait encore la marque noire des volets contre la muraille. La bicoque appartenait à un marchand de fourrage voisin. Elle était abandonnée depuis quelque temps et son propriétaire avait résolu de la démolir quand un homme d'une 50aine d'années, qui se disait médecin, était un jour venu la louer et avait même signé un bail de 3 ans. « C'est pour un de mes amis, avait-il dit, un savant qui désire être tranquille. » Il avait fait mettre sur la quittance le nom de Martial Procas, avait payé 1 an d'avance et s'en était allé. 2 jours après, une grande tapissière s'arrêtait devant la masure et les déménageurs ne tardaient pas à encombrer le trottoir de meubles dépareillés, de paquets, de ballots et d'une infinité d'objets et d'instruments bizarres tels qu'on en voit dans les laboratoires. Cornues rebondies, retortes au bec recourbé, cloches évasées par le bas, matraces à col étroit, sphériques et ovoïdes, aludelles piriformes luttées avec de l'argile et emboîtées les uns dans les autres. Puis se vit une profusion d'éprouvettes, de tubes coudés, de tubes en nu, de coupelles, de creusets, de flacons, de filtres, de diomètres et de siphons. Les passants intrigués s'arrêtaient devant un tel amas de choses mystérieuses et regardaient d'un œil méfiant cet envahissement de verrerie. Enfin, les déménageurs tirèrent encore de la voiture 2 fourneaux de cuivre, un petit lit de fer, une armoire normande, un divan rouge en velours de lin fané, quelques chaises, une horloge à coffre, une grande table de chêne qui ressemblait à un établi, et ce fut tout. Les hommes attendaient qu'on vînt leur indiquer où il fallait placer tout cela. Et comme le locataire ne se montrait pas, ils allèrent s'installer chez un marchand de vin, après avoir recommandé à un gosse de les prévenir dès que le paroissien arriverait. Mais il faut croire que le paroissien, comme il l'appelait, ne semblait guère pressé d'occuper sa nouvelle demeure, car il ne fit son apparition qu'au moment où l'on commençait à allumer les réverbères. Bien que l'on fût en mai et qu'il fût une chaleur lourde, il arriva dans un fiacre fermé, un de ces fiacres archaïques comme on en rencontre encore la nuit dans la cour des gares et qui sont conduits par des sexagénaires rubicons et malpropres. Après avoir payé le cocher, il rabattit sur ses yeux son chapeau de feutre noir, mit une main devant son visage et s'engouffra rapidement dans le vestibule de la maison. On eût dit, à le voir, un homme qui venait d'être soudainement frappé et qui, étourdi par le coup, s'enfuyait pour échapper à un ennemi invisible. Les déménageurs, prévenus, parurent en grommelant, la démarche lourde et chaloupante. « Ah, oh, c'est pas malheureux !» dit l'un. « Ben, ce type-là se paie décidément notre tête !» dit un autre. « Attends un peu, on va lui ranger sa verrie proprement encore. S'il y a de la casse, tant pis. Ça sera pas de notre fausse puisqu'il fait nuit. » Du vestibule, une voix s'éleva, sèche, un peu nasillarde. « Mes amis, ne cassez rien, je vous en prie. Il y aura un beau pourboire. » Les déménageurs se regardèrent et se mirent à rire bêtement en se poussant du coude. Le chef d'équipe, un grand gaillard au bras tatoué, coiffé d'un bonnet rouge, répondit avec un accent traînant de faubourien « Soyez tranquille, bourgeois, on aura soin de votre vaisselle. Du moment qu'il y a un bon pourboire, ça va. Allons les gars, commençons par les meubles, après on s'appuiera à la verrerie. » Et avec des gestes dont ils s'efforçaient d'atténuer la brusquerie, les hommes chargèrent sur leurs épaules le pauvre mobilier qui s'étalait pêle-mêle dans la rue. Oh, cela prit un quart d'heure à peine, puis ils attaquèrent la verrerie, mettant à ce travail un soin méticuleux qu'ils exagéraient d'une manière ridicule. Cependant, le locataire ne s'était pas encore montré. Dissimulé dans une chambre du premier étage, il interrogeait rapidement chaque fois qu'il entendait craquer les marches. « Que montez-vous là ? Le lit ? Bien, au premier, dans la pièce de gauche. » Quelques instants après, il demandait encore « Qu'apportez-vous maintenant ? Des bibelots de verre ? Dans la salle de droite, en bas, au rez-de-chaussée. » Et tantôt sa voix semblait toute proche, tantôt elle venait un peu assourdie du fond d'une pièce ou d'un corridor, et jamais les déménageurs ne pouvaient apercevoir celui qui leur parlait. Quand ils approchaient de l'endroit où devait se trouver ce singulier individu, ils entendaient un rapide glissement, voyaient une ombre qui frôlait les murs et disparaissait derrière une porte. Un d'entre eux, qui était chaussé d'espadrilles, parvint cependant à dépister le paroissien, mais celui-ci, surpris, tourna brusquement le dos et se tint dans un angle légèrement baissé comme s'il arrangeait quelque chose. Quand tout fut monté, placé, fixé, l'homme demanda encore « Et mes microscopes, je ne les vois pas. Quoi qu'il dit ?» fit l'un des ménageurs. Ben, je sais pas, répondit son camarade, je crois qu'il demande des microscopes. Oh, ils sont dans une caisse de bois noir, reprit l'homme invisible, sans sortir du coin où il s'était tapis. Ah oui, oui, je vois ce que c'est. On va vous monter ça, bourgeois, fit le chef d'équipe. La caisse est restée en bas dans le vestibule. « Pardon, excuse, on l'avait oublié. » On entendit alors tinter des pièces de monnaie, puis le locataire annonça « Je dépose votre argent sur la cheminée de la chambre de droite. » Les déménageurs s'avancèrent rapidement, mais quand ils arrivèrent, l'homme avait disparu. Le chef compta l'argent, fit entendre un claquement de langue significatif, puis dit en s'élevant ironiquement « Le compte y est, et largement. Merci bien, patron, et au revoir. »« Oh non, je ne peux pas dire ça puisque je ne vous ai pas vu, mais c'est égal. Vous êtes bien bon tout de même. Allons, à une autre fois. » Il y eut dans l'escalier un bruit de souliers ferrés, des trébuchements sonores, puis la porte se referma bruyamment. L'homme écouta quelques instants, immobile, en haut de l'escalier. Quand il fut bien sûr que les déménageurs étaient partis, il descendit très vite, poussa le verrou de la porte d'entrée, alluma une bougie, puis se jetant sur le vieux divan rouge qui gisait au milieu d'un affreux fouillis, il se prit la tête entre les mains et se mit à sangloter. Chapitre 2. Qu'était cet être douloureux? D'où venait-il? Pourquoi, à son approche, détournait-on brusquement les yeux? Il fallait donc qu'il eût quelque chose d'effrayant, d'épouvantable. Oui, il était laid, atrocement laid, d'une laideur qui dépassait tout ce que l'on peut imaginer, non point que sa figure fût ravagée par quelque lupus, labourée par un chancre répugnant ou couturée de plaies immondes. Elle n'avait subi aucune déformation, nul accident n'en avait bouleversé les lignes, mais ce qui la rendait ignoble, monstrueuse, c'était sa seule couleur. Elle était bleue, entièrement bleue, non point d'un bleu apoplectique tirant sur le violet lit de vin, mais de ce bleu cru, violent, presque éclatant, qui tient le milieu entre le bleu de Prusse et l'outre-mer. J'ai vécu longtemps dans les hôpitaux. J'y ai vu toutes les difformités, toutes les monstruosités dont la nature se plaît parfois à accabler notre pauvre humanité. Mais jamais je n'ai rencontré de monstre plus repoussant que celui dont j'ai entrepris de conter la narrante histoire. Rien n'était impressionnant comme cette face, qui semblait celle d'un cadavre en décomposition, et qui était cependant éclairée par deux yeux jaunes où se lisait la douceur de vivre encore et l'exaspération de ne plus compter parmi les vivants. La plume d'un Edgar Poe pourrait seule rendre une telle vision d'épouvante. Cela donnait le frisson et fascinait tout à la fois. Et pourtant, cet homme avait été beau. Ses longs cheveux bouclés aux reflets d'or fauve, ses yeux veloutés et profonds avaient fait tourner plus d'une tête de femme alors qu'il était conférencier à la Sorbonne sur d'arides sujets de bactériologie. Car on avait pris l'habitude d'aller à son cours, comme on va à 5 o'clock, et sur les gradins du vaste amphithéâtre, le contraste était frappant de ces mondaines aux toilettes chatoyantes, à côté de piocheurs pâlis par l'éveil et d'étudiants russes sanglés dans leurs redingotes de misère. Gênés par cette invasion féminine, les élèves de Martial Procas avaient fini par se grouper dans le haut de la salle, où ils se livraient de temps en temps à d'indécentes plaisanteries, dont les plus anodines consistaient à écraser des ampoules de sulfure ou à souffler de la poudre d'iodoforme sur les chapeaux et les corsages des belles auditrices. Ces petites tracasseries ne rebutaient point les admiratrices de Procas. Elles avaient parfaitement conscience d'être déplacées dans ce milieu intellectuel, mais elles y venaient quand même de plus en plus nombreuses et se coudoyaient comme des harangères pour se retrouver le plus près possible de la chair du jeune maître. Quelques-unes, par contenance, prenaient des notes et l'envoyaient leurs petits doigts chargés de bagues courir avec rapidité sur des cahiers au plat de toile. D'autres, plus franches, un tantinet cynique, se contentait de regarder le professeur avec des yeux de colombe assoupie et de se pâmer exagérément après quelques démonstrations qui eût exigé pour être comprises de préalables études scientifiques. Ces cours, mortels pour les profanes, semblaient ravir les petites femmes de l'auditoire, les tangentes, comme les appelaient malicieusement les étudiants, parce qu'elles avaient l'habitude, la leçon terminée, de s'approcher de Procas afin de le frôler un peu. Rien ne rebutait ces bactériomanes et Procas eût professé l'hébreu ou l'hindoustani qu'elles eussent été aussi nombreuses à son cours. Bientôt, cela devint de la frénésie et le soir, dans les salons, on ne parlait plus que du jeune professeur. « Comment, ma chère, vous n'étiez pas au dernier cours de M. Procas ?» Oh, quelle admirable séance vous avez perdue! Il nous a parlé pendant 1 heure de micrococques pathogènes. C'était délicieux. Jamais je n'aurais cru que l'on pût intéresser de la sorte avec des microbes. Et parmi ces mondaines enthousiastes, il ne fut bientôt plus question que de colonies et de bacilles. Certaines firent même installer chez elles de petits laboratoires, achetèrent des tubes, des microscopes et des bocaux, mais se gardèrent bien entendu de toute étude. Seulement elles parlaient beaucoup bactériologie, comme ces jeunes femmes qui de nos jours s'extasient sur Nietzsche et le trouvent exquis sans l'avoir jamais lu. On était devenu microphile, comme on est nietzschéenne, sans savoir pourquoi, par snobisme. Toutefois, il se glissait autre chose que du snobisme dans l'admiration que ces femmes professaient à l'égard de Procas. Il n'était pas, comme l'auteur de Zarathoustra, une lointaine figure, brûlée au feu de sa propre pensée, un passionné d'éthique individualiste, un surhomme cultivant intensément l'énergie vitale et s'efforçant de fonder une morale de volonté. C'était un être visible, palpable, qui n'aurait même pas eu besoin d'être un savant pour troubler les cœurs. Et l'on en raffolait d'autant plus qu'il semblait indifférent aux avances qu'on lui faisait. Son dernier volume sur les cellules phagocytes, 700 pages in octavo Jésus avec planche en couleur, eut le succès d'un roman d'aventure. La première édition fut épuisée en 15 jours et il fallut retirer, à la grande stupéfaction de l'éditeur, qui n'avait jamais eu un ouvrage de science enlevé de la sorte. Il fut dès lors de bon goût d'avoir les cellules phagocytes sur la table de son salon et le portrait de l'auteur sur le piano. Si Martial Procas n'avait pas été un timide, il n'eût tenu qu'à lui de posséder les unes après les autres les plus audacieuses de ses admiratrices, celles qui vinrent le trouver pour lui demander une dédicace, car les visites étaient toujours précédées d'une petite lettre mauve ou nymphe, émue, qui ne laissait subsister aucun doute sur les intentions de la signataire. Mais Procas, élevé dans un milieu modeste, son père était un petit opticien du faubourg Saint-Denis, se sentait mal à l'aise en présence d'une femme du monde, et il affectait toujours une froideur, sous laquelle palpitait cependant une grande émotion intime. Je dois, disait-il souvent, passer pour un imbécile aux yeux des femmes. Mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. J'ai peu fréquenté le monde et je suis demeuré un sauvage. Autant à la Sorbonne, ses bocaux en main, il se sentait maître de soi, triomphant et supérieur, autant chez lui, dans son appartement de la rue Soufflot, il était hésitant et gauche. Il lui suffit de tendre les lèvres pour cueillir des baisers. Il osait à peine tendre la main et ne semblait même pas s'apercevoir de la brutale pression qui imprimait de petits doigts tremblants. Cette timidité que l'on prit pour du dédain ne manqua pas de faire jaser. Bientôt, ses auditrices crurent toutes avoir une rivale. Pendant son cours, Procas tournait-il plus fréquemment la tête du côté d'une brune? Souriait-il en regardant une blonde? Immédiatement, des yeux chargés de haine foudroyaient les privilégiés et les bactériomanes frémissantes murmuraient entre leurs jolies dents « Ah, c'est celle-là !» Alors on détaillait celle que l'on croyait l'élue, des sourires ironiques erraient sur les lèvres, et à la sortie, c'était dans les couloirs, des chuchotements coupés d'éclats de rire insolents, des mines dégoûtées, de petites toux significatives. Au bout de quelques mois, toutes les auditrices de Procas étaient brouillées à mort, chacune croyant voir en l'autre une rivale préférée. Mais les plus enragées étaient surtout les femmes sur le déclin, celles qui ne peuvent croire à l'outrage des ans et qui s'efforcent en vain de cacher sous un habile maquillage la fâcheuse patte d'oie. Celles-là se montrèrent vraiment intrépides et abandonnèrent même toutes leurs occupations, en admettant qu'elles en eussent, pour se faire détectives. Malheureusement, comme elles ignoraient la savante méthode déductive d'Alan Dickson, elles ne purent constater le moindre flagrant délit et en furent réduites à s'espionner entre elles, ce qui donna lieu à de singuliers quiproquos et amena quelques petits scandales dont rougirent deux ou trois familles. Et pendant que s'exerçait autour de lui cette surveillance féminine, Procas continuait tranquillement ses recherches sur les bacilles pathogènes. Peut-être même fut-il demeuré inexpugnable dans toute sa tour d'ivoire s'il n'eût accepté quelques invitations. Il alla dans deux ou trois salons, toujours les mêmes, car rien ne lui pesait comme un premier accueil. Les intimités ne tardèrent pas à s'établir. Il retrouva quelques-unes de ses admiratrices. Les flirts commencèrent. Procas était sur la pente fatale. Du flirt à l'amour, il n'y avait qu'un pas à faire. Et ce cœur, qui n'avait jusqu'alors battu que pour la science, connut enfin le tourment d'aimer. La femme qui sut décaptiver ce sauvage était une Américaine, Miss Margaret, que l'on appelait familièrement la jolie Meg. Nous nous dispensons de faire son portrait et d'employer pour la peindre ces termes précieux et recherchés qui font toujours d'une héroïne la plus captivante, la plus suave, la plus idéale des créatures. Nous dirons simplement que Margaret était belle. De plus, elle était instruite, ayant fait de fortes études à l'université de Baltimore, et c'était certainement la seule auditrice de Procas capable de comprendre les explications scientifiques du jeune professeur. Elle était bien la femme qu'il avait toujours rêvée, la compagne qui peut être une collaboratrice en même temps qu'une amante, et avec laquelle on peut encore causer quand on a fini de rire. Il ne tarda pas en être amoureux fou, et de peur qu'on ne la lui prît, il l'épousa. Pauvre naïf qui s'imaginait qu'il suffit d'un oui pour enchaîner un cœur de femme. Pendant un mois, ce fut un triomphe d'amour, une folie de caresses, un enivrement. Procas ne vivait plus que pour Meg et sa passion était d'autant plus vive qu'elle avait été longtemps contenue. Comme tous les vrais amants, il était férocement jaloux. Il lui avait fait un nid luxueux où il entendait la garder pour lui seul, loin des tumultes du monde et des regards de la foule. Meg accepta tout d'abord ce rôle de déesse captive qui plaisait à son esprit romanesque. Sceptique par atavisme, comme toutes les Américaines, elle ne s'imaginait pas qu'il pût y avoir dans la réalité des hommes aussi tendres que les héros de romans, et cela lui sembla amusant d'être choyée, dorlotée comme une petite fille. Puis à la longue, elle se lassa de cette vie claustrale et du pauvre amoureux toujours agenouillé devant elle. Elle en arriva même à le trouver parfaitement ridicule et lui fit comprendre un beau matin qu'elle voudrait bien remplacer la lune de miel par un peu de soleil. Procas se résigna à la mort dans l'âme. Il fut obligé de sortir, de se produire de nouveau dans le monde. Puis sa femme exigea qu'il reprît ses travaux bactériologiques, sans doute pour mettre fin à un tête-à-tête qui devenait gênant. Nous n'entreprendrons point de raconter ici comment Meg, qui avait d'incessant besoin d'argent et à qui les ressources de son mari ne suffisaient plus, s'y prit pour augmenter son luxe. Cette femme ne doit jouer dans notre récit qu'un rôle épisodique. Elle n'est en somme qu'une ombre, une figure qui passe et qui bientôt doit s'enfoncer dans la nuit. Un jour, Procas, qui était toujours très épris et dont le doute même n'avait même pas effleuré l'esprit, apprit brusquement l'infamie de Meg. L'épreuve était là, cynique, accablante. Cette femme, qui était toute sa vie, à laquelle il avait sacrifié ses ambitions de savant, ses rêves les plus chers, cette femme le trompait odieusement. des lettres oubliées dans un secrétaire dont le tiroir était demeuré entrouvert, lui avaient appris l'atroce, l'affreuse vérité. Une rage sourde monta en lui. Soudain, il demeura immobile, les prunelles dilatées, le regard fixe. Ses lèvres remuaient, mais il n'en sentait qu'un bredouillement vague, des sons inarticulés qui ressemblaient au vagissement d'un petit enfant. Il porta les mains à sa poitrine, sa respiration était courte, saccadée. Son visage, d'abord pâle, se colora brusquement. Il devint rouge, presque violet. Le blanc des yeux s'injecta. On eût dit que le sang chassé vers la face par une pression violente allait jaillir de tous les pores de la peau. Une écume rosée coula de sa bouche, puis, vacillant sur lui-même comme un arbre que le vent secoue et abat, il eut un dernier tressaillement, et le regard angoissé tomba à la renverse en poussant un cri sinistre qui ressemblait au râle d'un homme qu'on égorge. Chapitre 3. Au bruit qu'il avait fait en tombant, un domestique était accouru. Il revint Procas et le porta sur son lit. Bientôt, toute la maison fut en émoi, et un médecin, prévenu par téléphone, arriva au bout de quelques instants. C'était un jeune homme blond, très myope, qui venait de s'établir tout nouvellement dans le quartier. Il s'approcha de Procas et l'examina rapidement. Le malheureux était toujours sans connaissance, et sa figure violacée faisait sur la blancheur de l'oreiller une tache horrible et sombre. Aidé du valet de chambre, le docteur souleva légèrement le malade et lui enleva ses vêtements. Le corps de Procas apparut alors dans sa nudité, de larges taches bleuâtres sur la peau. Un râle caverneux s'échappait de sa gorge. Le jeune praticien réfléchissait. Voilà qui est singulier, empoisonnement par le cyanure, asphyxie par le gaz d'éclairage, non, c'est impossible. Dans le premier cas, il serait mort depuis longtemps. Dans le second, il y aurait ici une odeur répandue qui ne laisserait subsister aucun doute. C'est plutôt une attaque d'apoplexie, quoique, cependant... Enfin, je crois qu'une saignée... Et s'approchant du domestique, il le regardait avec des yeux effarés. « Vite, une barre d'une cuvette !» Lorsqu'il eut eu ce qu'il demandait, il lava soigneusement le bras de Procas. Le malade eut un hoquet suivi d'un vomissement. « Comme il est froid !» dit le domestique. « Oui, murmura le médecin, cela est étrange, car dans ces sortes d'attaques, la température s'élève toujours, au contraire. C'est peut-être qu'il va mourir ?» Le docteur continuait de laver le bras du moribond. Quand la toilette de la peau lui parut suffisamment complète, il enroula la bande au-dessus du coude pour faire saillir les veines de l'avant-bras. Elles apparurent énormes, d'un bleu intense. Alors il flamba sa lancette et s'apprêtait à la plonger dans la chair lorsque quelqu'un lui mit la main sur l'épaule. Il se retourna et se trouva en face d'un grand vieillard au regard calme et froid. « Oh, le professeur Viardot ?»« Oui, je passais. On m'a mis au courant de ce qui est arrivé à mon pauvre ami. Et je suis monté, vous permettez ?» Et l'illustre maître s'approcha du malade. « C'est une attaque d'apoplexie, n'est-ce pas ?» demanda le jeune praticien. « Vous croyez ?»« Dame... » « Vous faites erreur, mon ami, et vous pouvez rentrer votre lancette. Aviez-vous remarqué ces taches bleues ?»« Oui, et j'avoue qu'elle m'avait surpris. Était-elle aussi large que maintenant, quand vous êtes arrivé ?»« Oh non, elles avaient tout au plus le diamètre d'une pièce de 50 centimes, et étaient assez rares. »« Ah, bien voyez, à présent, elles sont moins disséminées. » Elles s'élargissent, se rapprochent, elles ont même une tendance à se joindre et à se confondre. Dans une heure, elles auront envahi toute la surface cutanée, et le corps de ce pauvre garçon sera uniformément teinté d'une coloration bleue bien caractéristique. À présent, voyons les muqueuses. Le docteur Viardot demanda une cuillère et ouvrit les lèvres et les dents de Procas, toujours inertes. Regardez, dit-il à son confrère. Mais l'intérieur de la bouche est d'un bleu immense, intense. Et la langue, donc, et le pharynx. Les paupières aussi se colorent. Avez-vous votre thermomètre ? Le voici. Bien, prenez la température. Il y eut un long silence pendant lequel les deux hommes ne quittèrent pas un instant le malade des yeux. Puis sur un signe du docteur Viardot, le jeune médecin regarda son thermomètre. 30°4, dit-il. J'en étais sûr. Lorsque Procas aura repris connaissance, sa température remontera peut-être à 35 ou 36, quelques dixièmes, mais jamais à 37. Pauvre garçon, s'il en échappe, il ne sera plus que l'ombre de lui-même. Il pourra encore traîner un ou deux ans, trois peut-être, mais il demeurera hideux, repoussant, et il souffrira parfois le martyre. Au moindre mouvement un peu brusque, au moindre effort, les crises d'étouffement le reprendront. Le plus petit exercice lui donnera des vertiges. Il ne pourra plus courir ni marcher rapidement sans éprouver une effroyable oppression accompagnée de palpitations et d'angoisse. Oui, oui, je commence à comprendre. Voyez maintenant les lèvres. Elles sont d'un bleu foncé, de même les narines et le lobe des oreilles. Examinez les mains. Remarquez cette déformation de l'extrémité des doigts. Est-elle assez accusée? La dernière phalange est renflée, arrondie, comme étalée. Les ongles sont épais, larges, recourbés. En effet, n'en avais-je pas remarqué tout cela plus tôt? Oh, ces cas de cyanose, mon ami, sont excessivement rares, et les jeunes praticiens sont excusables de ne pas les connaître. En général, il s'agit d'affections congénitales, et alors les individus qui en sont atteints meurent en bas âge. Il y en a fort peu qui arrivent à la trentaine. Au contraire, si le rétrécissement de l'artère pulmonaire est acquis, c'est-à-dire fait suite à une maladie de l'âge adulte, comme ici, le mal peut se révéler à n'importe quel âge de la vie. J'ai eu l'occasion de soigner Procas pour un rhumatisme aigu. À cette époque, le cœur a été atteint. Une endarthrite de l'artère pulmonaire avait rétréci l'ouverture de ce vaisseau. Je lui disais souvent, « Faites bien attention, mon ami, votre cœur vous jouera un mauvais tour. » Je ne m'étais malheureusement pas trompé. Depuis le rétrécissement, n'a fait qu'augmenter. Tous ces troubles, coloration bleue, dyspnée, apathie, refroidissement, que nous observons maintenant chez lui, s'expliquent par ce fait qu'il aura dorénavant trop de sang veineux et pas assez de sang artériel, trop d'acide carbonique et pas assez d'oxygène. Ce sera un éternel asphyxié. Mais comment ces accidents n'ont-ils éclaté qu'aujourd'hui ? Sans doute ils auraient pu éclater hier, n'éclater que demain. C'est sûrement une émotion qui a amené cette crise. Une émotion des plus violentes. Et le professeur Viardot, qui était sans doute au courant de certains détails de la vie de Procas, hocha lentement la tête en regardant le malade d'un air attristé. Puis, comme il s'apprêtait à partir, le jeune médecin demanda « Que dois-je faire, maître ?»« Rien, attendre qu'il reprenne connaissance. » »« Alors, de ma part, vous lui recommanderez le repos, la tranquillité absolue du corps et de l'esprit. »« Allons, au revoir, je repasserai tantôt. » Procas revint enfin à lui. Cependant, ils ne se rappelèrent rien. Ils se rendaient bien compte qu'il lui était arrivé quelque chose, mais quoi ? Il regarda le médecin d'un air hébété, racla les draps avec ses ongles, puis soudain, ses yeux injectés de sang s'arrêtèrent sur Meg, qu'une femme de chambre très au courant de la vie de sa maîtresse était allée chercher en auto au fin fond de Passy. Un long soupir s'exhala de sa poitrine. Il eut un tressaillement, tenta de se lever, mais retomba lourdement en grinçant des dents. Meg, qui s'était penchée vers lui, se redressa presque aussitôt glacée d'effroi. Les yeux de Procas se fixaient sur elle, mais de façon si étrange. Il y avait dans ce regard un tel éclat de haine en même temps que de profonde détresse, qu'elle devina immédiatement ce qui s'était passé. Son mari savait tout. Alors, lentement, comme médusée, elle recula jusqu'à la porte, l'ouvrit brusquement et s'enfuit comme une folle de cette chambre où elle avait un beau soir apporté l'amour avec elle, où elle ne laissait plus maintenant que le désespoir et la honte. Pendant 8 jours, les médecins ne purent se prononcer sur le sort de Procas, car sa maladie subissait un cours étrange, déroutant. Tantôt le malheureux semblait en pleine voie de guérison, tantôt il retombait dans une inquiétude d'immobilité voisine du coma. Enfin, son état parut s'améliorer. Cependant, l'affreuse teinte bleue, au lieu de diminuer, devenait au contraire de plus en plus foncée. Elle avait même fini par gagner tout le corps, mais c'était la face qui était la plus atteinte. Très fréquemment, il ressentait un grand froid intérieur, et la température de son corps s'abaissait aussitôt d'une façon effrayante. Il avait aussi de fréquentes hémorragies et vomissait quelquefois du sang. Alors, il éprouvait des palpitations atroces qui se terminaient presque toujours par des convulsions généralisées, ayant beaucoup d'analogies avec de véritables crises épileptiformes. Le docteur Viardot, qui venait le voir 2 fois par jour, s'efforçait en vain de remonter un peu, mais Procas, que le souvenir de Meg obsède de plus en plus, depuis qu'il pouvait rassembler ses idées, demeurait sourd à toute exhortation. Il était d'ailleurs persuadé qu'il allait mourir, et attendait même, avec une sorte d'impatience, la fatale minute où ses yeux se fermeraient pour toujours, où sa pensée, sans cesse en travail, s'endormirait enfin dans la douceur du néant. Pauvre Procas, il faut croire qu'il n'avait pas encore assez souffert et que sa douloureuse existence ne devait pas s'arrêter là. Son épreuve, hélas, ne faisait que commencer. Un soir, qu'il entendait dans une pièce voisine les ronflements réguliers du domestique chargé de le veiller, il se glissa doucement à bas de son lit et gagna à tâtons la chambre de Meg. Une fois entré, il fit jouer le commutateur et se dirigea vers le petit secrétaire où il avait trouvé les maudites lettres. Elles avaient disparu. Procas demeura hébété, se demandant s'il ne venait pas de faire un rêve affreux et si sa pauvre imagination de malade n'avait pas créé de toutes pièces cette lamentable histoire de trahison. Mais non, il était bien certain de les avoir tenues, ces lettres. Il en revoyait une, entre autres, qui commençait par ces mots « Petite Meg de mon cœur ». Il se rappelait qu'elle était un peu froissée et qu'elle portait dans le coin un chiffre en relief avec des initiales entrelacées. Il y avait aussi un télégramme avec le cachet de l'avenue Friedland, où il était question d'un rendez-vous manqué, et un autre billet d'amour signé Robert, au style ridicule et prétentieux. Il eût voulu les retrouver, ces lettres, afin de les froisser, de les lacérer, de les piétiner, de passer sur elles enfin la rage qui lui mordait la chair. Il se mit à fouiller dans tous les meubles, à jeter les tiroirs pêle-mêle sur le tapis, à briser furieusement cassettes et coffrets. Le domestique réveillé accourut aussitôt. En l'apercevant, Procas poussa un hurlement de fauve et lui fit signe de sortir. Et il y avait dans son geste quelque chose de si menaçant que le serviteur s'enfuit en proie à une terreur folle, absolument convaincu que son maître avait perdu la raison. Bientôt, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. « Monsieur est fou, fou furieux. Certainement, il va faire un malheur. » En un instant, la maison fut désertée, et ceux des domestiques qui ne prirent point la fuite s'enfermèrent à double tour et se barricadèrent dans leur chambre. Quand Procas n'entendit plus aucun bruit, il se mit à arpenter la pièce à pas menus, heurtant parfois les débris qui jonchaient le parquet, se raccrochant aux meubles dès qu'il sentait ses jambes fléchir sous lui. Tout à coup, il s'arrêta. Un portrait de Meg accroché au mur le regardait de ses grands yeux étonnés. Il le contempla quelques instants, puis baissa lentement la tête, comprimant de ses deux mains les battements désordonnés de son cœur. Maintenant que sa fureur était calmée, que sa haine avait fait place à un grand abattement, il se sentait devenir lâche. Et si Meg fut revenue à cet instant, peut-être se serait-il jeté à ses pieds comme un coupable. Il regarda de nouveau le portrait, la poitrine secouée de petits sanglots convulsifs, puis passa dans le salon qui s'illumina dès qu'il en ouvrit la porte. Le piano était demeuré ouvert, et sur le pupitre s'étalait encore une berceuse de Grieg qu'il aimait à entendre, qu'il faisait souvent jouer à Meg, car il trouvait à cette mélodie un charme mélancolique et doux dont son cœur d'amant était étrangement troublé. Sur un guéridon, dans un vase de cristal, des fleurs achevaient de mourir. Il en prit une et la porta à ses lèvres. À ce moment, la petite pendule de la cheminée cessa tout à coup son tic-tac. On eût dit qu'un cœur avait subitement cessé de battre, et un silence lugubre remplit la pièce. Procas eut un frisson. Son regard s'était arrêté sur la glace dans laquelle se réfléchissaient deux ampoules électriques. Il s'approcha machinalement, serrant dans sa main tremblante la pauvre fleur toute froissée, mais s'arrêta terrifié comme un homme qui aperçoit devant lui un fantôme. C'était la première fois qu'il se voyait depuis que la terrible crise l'avait terrassé, et il crut être le jouet d'un cauchemar. Il lui semblait impossible que ce fût lui, ce monstre bleu, ridicule et sinistre, plus hideux qu'un masque japonais. Il ferma les yeux, puis les rouvrit au bout de quelques secondes. L'affreuse tête était toujours devant lui, grimaçante et mauvaise. Il se pinça violemment pour s'assurer qu'il était bien éveillé, et prononça quelques mots sans suite. La glace lui renvoya le mouvement de son bras et celui de ses lèvres. Alors il eut peur. D'un geste hésitant, il appuya sur un bouton électrique et attendit angoissé, n'osant plus regarder la glace. Personne ne répondit. Il ouvrit une porte et appela. Sa voix sèche et rauque se perdit dans l'obscurité. Il répéta cependant son appel, frappant même le parquet avec une chaise. Rien ne remua dans la maison. « Mon Dieu !» balbutia-t-il en tremblant. et il s'accroupit dans un angle, recroquevillé sur lui-même, s'étreignant le front à deux mains. Maintenant, il se rendait compte de tout. Des mots prononcés à son chevet lui revenaient à l'esprit. Coloration bleue. Il demeura effrayant, épouvantable, pauvre garçon. Oui, on avait dit cela. Tout se précisait à présent dans son cerveau meurtri. Il devina pourquoi les domestiques ne répondaient plus à son appel. « Je leur fais peur, murmura-t-il. Eux aussi m'ont abandonné. » Il comprit alors qu'il n'était plus qu'une épave humaine, une chose horrible et répugnante. Et dans l'atmosphère lourde de la pièce silencieuse, il rêvait douloureusement, le regard morne et vague.